Je suis Vincent Demassier, donc je suis le président du REF France et le réseau français sur l'entente de voix. Et je vais vous parler de mon statut de pair consultant, c'est-à-dire comment je suis arrivé là, les avantages mais aussi les limites de ce statut. D'abord, avant d'être un pair payé, voilà, j'ai d'abord été pair dans les groupes d'entendeurs de voix, puis pair dans des associations militantes. On parle de bénévolat à ce moment-là, je rappelle quand même une chose qui moi me tient à cœur, c'est que quand on est bénévole, c'est pas de la gratuité qu'on donne, c'est de l'argent qu'on donne pour faire une action, parce que c'est un coût d'être bénévole, et bien plus important qu'on ne le pense. De deux, je me déclare pas, et ça c'est personnel, père aidant. Pourquoi ? Parce que, alors je suis dans le domaine de la santé mentale, père aidant est beaucoup utilisé en santé mentale, aidant ou se proclamer aidant, comme des proches peuvent se déclarer automatiquement des aidants, je trouve ça très prétentieux de notre part, parce que la seule personne qui peut à la rigueur nous dire qu'on est aidant, c'est le père avec qui on discute, qu'on accompagne, qui peut le seul à légitimer le fait qu'on soit aidant ou pas. Mais c'est important parce que d'office, ça veut dire que en tant que père, on est automatiquement aidant. Et je ne crois pas que ça soit une vérité, mais en tant que professionnel, même si on est compétent dans son domaine d'activité, on n'est pas toujours pour autant quelqu'un d'aidant, même si on a des compétences. Moi, je suis entré en tant que professionnel petit à petit. J'ai d'abord été bénévole auprès d'un psychiatre dans le cadre de consultations propres à l'entente de voix. Un psychiatre qui ne s'en sortait pas super bien, mais qui avait suivi une formation sur l'entente de voix, et qui s'est dit quand même, c'est un peu bizarre de faire une consultation sur l'entente de voix sans avoir de pair à côté de moi, qui est un expert du domaine. Et donc moi qui voulais me rassurer sur le fait de l'intérêt de travailler dans une institution, sur... savoir comment j'allais y rentrer, qu'est-ce que j'allais y faire, surtout que moi je suis plutôt quelqu'un à taper en même temps sur l'institution et dire qu'il y a des tas de choses mauvaises, ça me paraissait très compliqué. Et donc j'ai accepté quand même pour m'assurer sur l'opportunité de mon intervention et ma légitimité, j'irais, à travailler dans une institution. Et très rapidement, au bout de quelques temps, ce psychiatre est parti. Le chef de pôle n'a pas souhaité là me rémunérer pour prendre une succession, voilà. Et du coup, j'ai arrêté mon action dans l'institution. Je suis d'autre part formateur en santé mentale et lors d'une formation, il y a eu des professionnels de santé mentale qui ont souhaité faire des consultations spécifiques à l'entente de voix, mais avoir là aussi un spécialiste à côté d'eux pour développer leurs connaissances et surtout pour aborder des questions qu'ils ne connaissent absolument pas, qu'ils entendent de voix proche, ils ont leur représentation ou ce qu'ils apprennent de la part de pairs. Et là, je suis rentré en tant que consultant pour accompagner, voilà, aider dans la mesure du possible mes pairs. Ça a été là, à ce moment-là, les premiers financements, pour moi en tout cas dans ma pratique. Actuellement, je suis consultant dans deux centres hospitaliers spécialisés au sein d'un service de l'interarmée pour des gens qui, civils ou militaires, qui reviennent de zones de conflit. Et là, tout récemment, dans une prison, dans un SMPR, alors je n'ai pas encore l'étude de l'acronyme, Centre Médico-Psychologique Régional, si je ne me trompe pas, voilà, auprès de détenus, pour des gens qui entendent des voix et pour des gens qui sont dites parano, qui est mon domaine de spécialisation, en même temps je suis concerné par le sujet. Moi j'ai refusé d'emblée d'être salarié d'une structure. Pourquoi ? Parce que je voulais pouvoir garder un cadre de liberté. C'était pour moi ne pas obligatoirement être intégré totalement dans une équipe, c'est-à-dire avoir le droit d'être hors cadre. Hors cadre d'abord dans le sens où j'avais absolument pas envie de connaître les personnes que je rencontrais, par un dossier médical, par une pathologie, par des représentations que la personne avait pu laisser au fil des années dans un service, que j'avais aussi envie de garder une forme de secret, voilà, non partagé avec les équipes. Dans le sens où dans les consultations, pour moi, il est primordial que tout puisse se dire. Je suis un père, je ne suis pas un ersatz de je ne sais pas quel professionnel, je suis un père. Et du coup, on a envie de se dire des choses, voilà, qu'on ne dirait absolument pas. Si on a envie de parler des médicaments pour dire bah non, ça ne m'intéresse pas, ou ça me fait tel ou tel effet, c'est pas pour être répété derrière à l'équipe ou au psychiatre qui va avoir son regard par rapport à ces discussions-là et apporter sa solution. On n'a pas toujours envie, on n'a pas envie d'avoir une augmentation de traitement parce qu'en un seul coup, on a envie de dire bah, mes voix sont hyper fortes en ce moment et du coup, ça va faire peur à tout le monde. Alors qu'entre pairs, on sait que bah, ce n'est pas spécialement quelque chose de dramatique, même si c'est difficile à vivre. Et que du coup, si je n'avais pas ce cadre voilà, de consultant, j'ai été obligé d'intégrer de façon plus importante une équipe et donc de rapporter aussi beaucoup plus de choses. Ce que je voulais absolument pas. Et le fait d'être salarié par rapport à être consultant, c'est aussi avoir une... Voilà, j'étais automatiquement le... Alors pas le sous-fifre, c'est pas le bon terme, mais le subordonné au chef de pôle ou au cadre de santé, où là aussi, j'aurais été obligé de suivre une politique d'action du pôle, de respecter un cadre, voilà, avec très peu de marge de manœuvre. Je prends un exemple très concret. Il y a quelqu'un que j'accompagne... qui pendant des années a choisi pour vivre avec ses voix, et plutôt que vivre les choses incroyables avec ses voix très compliquées et très dramatiques, a préféré utiliser comme méthode l'alcool, au point d'avoir une addiction énorme à ça. Dans une consultation, il est venu voir, on a parlé voilà, de la difficulté qu'il a avec ses voix, qui allait l'amener de fait à faire des actions qu'il n'avait pas envie de faire. Et dans la discussion, bah, il a dit qu'avant, son seul moyen de s'en sortir, c'était bah, l'alcool. Aucun professionnel de santé ne pourra se permettre de dire ce que je lui ai dit ce jour-là, de dire, mais écoute, si pour toi, la solution pour éviter quelque chose qui sera dramatique à tes yeux, et sans doute aussi aux yeux de la société, de façon, voilà, c'est le recours à l'alcool, bah oui, remets-toi dans ton addiction à l'alcool, c'est peut-être la bonne solution transitoire. Mais dans quelles conditions tu veux mettre ça en place? Et c'est lui, hein, il m'a clairement donné un délai de voilà, 4 mois pour dire bah, au bout de 4 mois, tu m'aides à revenir dans une gestion et puis après dans un arrêt, parce que son souhait c'est d'arrêter totalement. Voilà. Il y a très peu de professionnels dans un cadre salarial qui pourraient se permettre ce genre de choses. Moi, mon cadre de consultant me permet d'avoir une marge de manœuvre qui est beaucoup plus importante. Il y a aussi le fait que ben, quand on est père, on n'a pas l'obligation de dire mais tu prends bien ton traitement ou autre, on n'a pas l'obligation de dire bah, tiens, l'objectif qu'on a mis sur toi, c'est de te mettre un super beau logement ou un travail à l'emploi. C'est je peux vraiment travailler sur le projet du père que j'accompagne, sur son projet de vie, ce qu'il a envie, ses rêves. Voilà, c'est quelque chose qui est super important. Nombre de gens que j'ai voilà, en consultation, sur qui on travaille sur ses rêves à lui. Hein, voilà. Et où il avance, dans ce qui lui plaît, dans ce qu'il fait vivre, dans ce qui donne envie de se battre, et qui en même temps, parce que tout n'est pas répété à l'équipe, ben, obéit entre guillemets à des choses qui lui sont peut-être bonnes, j'en sais rien, mais en tout cas que lui n'estime pas comme étant utile, de courir vers un emploi immédiat alors qu'il vient à peine de se remettre un petit peu à son sens d'une maladie dite chronique, de schizophrénie ou autre, et que d'un seul coup, parce qu'il va un petit peu mieux, on dit bah, tout de suite pour toi c'est l'emploi, ça ne profite même pas de la vie, mais tout de suite à l'emploi, bah, d'aller sur d'autres projets. Voilà. Si ces projets devaient être répétés à une équipe, ça pourrait être compliqué, parce que de temps en temps, c'est des projets qui ne vont pas toujours dans le même sens. Voilà. Ces projets, c'est peut-être de faire un voyage, et je pense à quelqu'un de précis, vous voulez voilà, partir en Australie pendant 2 mois, c'est pas énorme, hein, 2 mois, mais c'est pour une question de permis, enfin de papier, alors que le service met en action du travail. Mais en même temps, s'il n'acceptait pas cette option d'aller vers le travail, il y avait des outils qu'on lui proposait qui lui servait pour son rétablissement, auquel il ne pouvait pas accéder. Parce qu'il me considère comme un père, et ça c'est aussi l'importance d'être toujours vu comme un père et pas comme un professionnel avec une blouse, même si on ne l'a pas, ça lui a permis de mettre des actions parce qu'il y avait ce terrain où il y avait une sorte de non-restitution à une équipe, voilà, parce que j'ai un statut différent. Ce qui n'est pas toujours évident parce que régulièrement les équipes me demandent, voilà, mais dans mon statut, parce que je ne suis pas salarié mais consultant, j'ai pu écrire que je ne souhaitais pas rapporter et que je ne rapporte exclusivement que ce que le père me demande de rapporter, ou ce que je lui dis, mais pourquoi tu n'en parles pas, parce que ça pourrait être utile. Et souvent, ce n'est pas moi qui rapporte, c'est lui qui rapporte des choses dans des rendez-vous qu'il a avec les infirmiers, avec les psys, avec les psychiatres et tout ça. De deux, pourquoi ne pas raconter aussi? Parce que je suis un père. Et en tant que père, je rapporte aussi des éléments de ma vie privée, de mon parcours, que les professionnels de santé qui sont mes collègues, parce que je les considère comme des collègues, j'ai envie de partager avec mes pères des situations qui ont été très compliquées pour moi, tordues dans l'esprit de certains, mais je les partage à un père, dans le sens où je veux l'aider, voilà, alors qu'il m'aide ponctuellement aussi, parce que dans les échanges, on est deux à bénéficier de quelque chose. J'ai pas envie que mes collègues, pour autant, le sachent, et rentre dans mon intimité que j'ai partagée avec une personne, dans un cas qui était utile, dans un échange constructif. Je ne vois pas pourquoi j'ai raconté ma vie perso ou ce qui s'est passé dans ma vie à mes collègues. Un psychologue qui va parler d'un entretien avec son patient, ou un infirmier, ou un psychiatre, s'il rapporte des éléments, qui sont des éléments de son échange, comme eux, leur technique, c'est « je ne rapporte rien de moi », mais que nous, on est pairs, normalement, c'est fini. Ok. C'est super compliqué. Maintenant, ce statut qui a plein d'avantages a un énorme inconvénient. C'est que je suis obligé de renoncer à l'aspect sécuritaire. Voilà. C'est-à-dire que clairement, je n'ai pas de contrat, je n'ai pas de CDI. Je signe des missions, des contrats de généralement un an. Il y en a un où j'ai deux ans. Mais du coup, c'est très précaire. Ça a un autre atout. Hein. C'est que je suis obligé de me remettre en question continuellement. C'est-à-dire que déjà, j'ai pas un confort sécuritaire. C'est-à-dire que je peux pas me dire le matin, en même temps j'en ai pas l'envie, mais si un jour ça me venait l'envie, de dire je vais aller pour bosser, pour faire mes heures. Parce que de toute façon, si les pères que j'accompagne ne disent pas, entre guillemets, que je leur ai aidé à quelque chose, même s'ils n'éclairent pas toujours le comment, très vite le service va dire de massier c'est bon, ça sert à rien, ce truc de père là. Donc je suis constamment obligé de me mettre en question, de savoir si j'apporte réellement quelque chose à la demande du père que j'accompagne. Et du coup, le fait d'avoir une fragilité de statut, c'est aussi être sûr pour moi, et ça me rassure, de ne pas être bouffé par l'institution et de ne pas rentrer dans un petit chausson confortable avec une fiche de paye tous les mois et de faire une routine, voilà, qui m'empêcherait de faire ce que moi j'estime comme étant mon vrai travail de père. Et je vais m'arrêter là, parce qu'après il y aura peut-être des questions que je pourrais répondre. Merci.
Je vais donc donner la parole à Daphné, qui, elle, n'est pas consultante, mais intérimaire. Hein, vous voyez, c'est un peu des figures particulières qu'on vous présente aujourd'hui. Hein, donc, elle est intérimaire, et à partir de là, elle va essayer de nous expliquer quels sont les avantages et peut-être les inconvénients de l'intérim, si j'ai bien compris. Hein, c'est ça.
Oui, c'est voilà. Ça, je crois.
Ok. Alors, à vous, Daphné.
Oui, oui bonjour oui. À tous. Donc, je vais respecter aussi les 10 minutes. En tout cas, je vais essayer. Moi, je suis père aidante intérimaire, mais aussi formatrice. Mais là, on me demande d'intervenir sur le côté père aidante en intérim. Et donc, je vais commencer un petit peu par vous parler de mon parcours. Donc, moi, j'ai commencé par une formation d'éducatrice spécialisée, puis je suis tombée malade. Et du coup, c'est aussi un goût que j'avais, en fait, d'être dans la relation humaine et aussi du partage en équipe et de l'intérêt de travailler en équipe. Et du coup, je pense que ça a aidé aussi à la constitution du projet Prosper pour lequel je travaille aujourd'hui, en sachant que, en fait, le projet Prosper est un... est un projet en processus et que comme tout à chacun, c'est un projet, que tout à chacun a un processus. Désolée, je suis un petit peu intimidée, je ne suis pas une experte des tables rondes. Et donc le projet est en processus et donc c'est ce que nous allons voir par la suite. Donc une autre motivation à l'idée de faire Père Aidante, en fait, c'était que j'avais l'impression, parce que j'ai été bénévole dans un GEM pendant 6 ans avant d'être Père Aidante, j'avais l'impression qu'on avait des difficultés en tant que père des fois à faire des choix. Et moi la première. Hein. Et qu'on n'avait pas toujours, notamment quand on n'était pas... Il existe des structures pour les personnes qui sont malheureusement très en difficulté à un moment donné dans leur vie. Et pour les personnes valides, il y a moins de difficultés des fois à faire ses choix. Mais pour ceux qui sont entre les deux, c'était parfois pas évident de trouver un accompagnement pour faire ses choix. Et donc moi j'avais envie d'apporter peut-être quelque chose de cet ordre-là. Après, les fortes en fait de ces deux envies, j'ai découvert en fait que les évaluations sur la père aidance qu'on a réalisées au fil de l'expérimentation et puis avec l'expérience, les évaluations en fait ont apporté l'espoir. Aussi bien au niveau des personnes concernées que la père aidance apporte de l'espoir aux professionnels aussi. Le fait que, comme on a dit tout au long de la journée, que la père aidance amène un lien spécifique avec la personne rencontrée. Et que moi, ce qui me touchait aussi, c'est que on pouvait apporter comme ça une place professionnelle à ceux qui le désiraient. Dans un monde où aujourd'hui, j'ai l'impression, en tout cas de par mon expérience personnelle, on a peu de place en tant que personne usagère des services de santé mentale, d'avoir une place professionnelle si on désire travailler autre que de faire du ménage ou ce que j'ai fait. Ou d'aller transporter des journaux à gauche et à droite. Voilà, c'est des parcours un petit peu différents que ce qu'on peut trouver habituellement. Donc là, au niveau des avantages de l'intérim, en fait, déjà on l'a choisi, nous, au niveau du collectif Prosper, parce que ça permettait de répondre à différentes sollicitations. Donc le projet Prosper, en fait, je travaille pour le conseil départemental, je peux travailler pour le PSM, je peux travailler pour une association lambda ou des gens disséminés à gauche et à droite. Et du coup, l'intérim permettait de pouvoir travailler pour toutes ces structures ou personnes. Et du coup, c'est sur l'Ocminé, entre Vannes et Pontivy, pour ceux qui connaissent. Et donc, un des avantages de l'intérim, c'était de ne pas perdre mon AH, c'est-à-dire que je pouvais travailler un petit nombre de temps et pouvoir évaluer en fonction de mon état de santé si je pouvais me permettre de travailler plus pour gagner moins, en gros.
Pas mal, pas mal.
Et donc d'évaluer progressivement mon état de santé aussi en fonction de mon temps de travail. J'ai aussi la possibilité en fait de ne pas accepter toutes les missions qui me sont proposées et pour permettre de proposer une prestation de qualité. Par exemple, on est en milieu rural, donc il y a parfois des bus toutes les 2-3 heures. Et du coup, pour accompagner des gens à oser prendre le bus, ce que je peux faire dans le cadre de mon travail, je prends parfois plus de temps que le temps traditionnel d'une heure et demie. Pour pouvoir accompagner la personne et proposer vraiment une prestation de qualité ou la meilleure possible, en tout cas. On a des primes aussi. L'avantage de l'intérim, c'est qu'on peut avoir des primes de vacances et de précarité à chaque fin de contrat. Prime de café aussi peut-être, non? Non, je crois pas. Et la souplesse de l'intérim en fait permet que le projet de père aidant sans Morbihan s'adapte petit à petit. Donc ça veut dire que qu'au niveau administratif, en fait, on peut faire des ajustements comme le temps de transport pris sur le temps de travail, etc. Et que ça ne demande pas d'avenant ou de complications au niveau de l'administratif. Enfin, pour moi, ça m'a l'air assez simple. Après, il faudrait voir avec la coordinatrice du projet qui est dans les parages. Mais pour moi, ça me paraît plus simple, de mon côté en tout cas. Et au niveau des inconvénients, alors, c'est que je ne pense pas que l'intérim peut être une solution pérenne, parce que c'est quand même la précarité. Si on veut faire un prêt bancaire au niveau d'une banque, c'est super compliqué, en fait, pour l'instant. C'est également pas évident pour qu'un employeur, en fait, finance un temps de travail en CDI, parce que c'est hyper facile et flexible comme solution. Et du coup, est-ce que c'est pas un peu de la risquer une précarité? C'est pour ça que je parlais de processus en début. C'est qu'en ce moment, on est en train de réfléchir sur la pérennité, en fait, de la pérédance dans le projet Prosper dans le Morbihan. Et l'intérim, même si ça a été une... Et ça continuera peut-être à être une première marche pour basculer vers autre chose, mais ça nous semble pas à l'heure actuelle quelque chose de pérenne. Notamment aussi parce que au niveau de l'équipe, comme j'interviens à la mission, j'interviens en gros ponctuellement, par exemple sur un staff, 20 minutes pour présenter ma situation et après je pars. À l'heure actuelle, ça se passe comme ça. Et du coup, est-ce que, comme c'est un emploi en fait qui n'est pas encore réglementé, qui n'est pas trouvé en France, qui n'est pas référencé en France, etc., on crée en fait l'emploi petit à petit. Est-ce que ça aide aujourd'hui les équipes à se rendre compte des capacités des pères aidants et des potentialités qui sont qu'il est possible d'avoir avec ces personnes-là? Je ne suis pas sûre que l'intérim favorise en fait ce fonctionnement-là, en fait. Et puis, il y a aussi la fluctuation des montants de salaire mois en mois. Alors, c'est-à-dire que je n'ai pas un salaire fixe tous les mois. J'ai un salaire qui fluctue. Donc, je fais mes déclarations trimestrielles à la CAF en fonction des salaires de chaque mois. Ensuite, au bout de quelques années, vient se pointer l'ARE. L'ARE qui va dépendre de ce que je vais déclarer, mais qui va intersecter sur l'AAH. Et du coup, ça fait un micmac pas possible. Et qu'on peut recevoir type une notification des droits et des devoirs de la personne ayant une AAH, et si on ne respecte pas les droits et les devoirs sans faire d'erreur, etc., de la personne ayant des droits à l'AAH, il se peut qu'on se retrouve avec une moitié d'AAH en fait pour vivre, donc c'est-à-dire 400 euros à peu près. Et ça veut dire qu'ayant un salaire à peu près mensuel au mois de 200 euros, ça me fait 600 euros pour vivre. Alors que si je ne travaillais pas, je serais à 860 à l'heure actuelle. Mais pour l'instant, j'ai encore en théorie l'AAH à taux presque complet de temps en temps et moins d'autres temps, mais c'est quelque chose qui peut arriver.
Merci beaucoup. Hein. On va continuer avec Thierry Froger. Excusez-moi, qui lui n'est pas salarié, si j'ai bien compris.
Vous avez bien compris.
Voilà, et donc il va nous donner une autre, une autre manière d'être père accompagnant, en tant que plutôt dans quelque chose qui est un peu plus informel pour le coup. Voilà.
Je vais parler de mon activité informelle, oui, effectivement.
Il faut se mettre plus près. Oui.
Pardon. C'est mieux là. Ok. En fait, je vais aborder moi trois points principaux. Hein, en premier, comment je suis devenu pérémulateur informel. Ensuite, les avantages de la pratique et les inconvénients de la pratique. Et pour finir, je vous donnerai un petit exemple qui m'a fait rire. De pérémulation informelle. Donc, je suis devenu pérémulateur pour avoir été moi-même, je pense, pérémulé, en fait. Donc, j'ai eu un accident de voiture il y a une quinzaine d'années. Je suis devenu tétraplégique à l'occasion. Et en fait, quand j'étais au centre de rééducation à Kerpap, ici à côté de Lorient, je sentais en fait que j'avais beaucoup à apprendre des autres personnes que je croisais dans les couloirs. Donc je pense que j'étais le type le plus ennuyeux de Kerpap parce que je courais partout et chaque fois que je voyais un type avec quelque chose qui m'intéressait, je lui demandais mais ça, t'as eu ça où? Et ça te sert à quoi? Ça, comment ça marche? Et ainsi de suite. Et en plus j'avais une ergothérapeute, donc celle qu'on m'avait attribuée était assez proche aussi de cette problématique en fait, et elle avait très vite tendance, elle me donnait son côté, ce qu'elle avait appris, toutes les connaissances qu'elle avait, et quand ça n'allait plus et qu'elle voyait que je voulais aller au-delà, elle boitait un peu en touche et elle me disait bah, attends, il y a machin, il a tel truc qui peut t'intéresser, je vais lui dire de venir te voir, vous allez discuter ensemble et vous allez prendre des décisions, vous allez pouvoir avancer tous les deux. Donc c'était quelque chose qu'elle pratiquait très régulièrement et qui m'a beaucoup servi. Mais à l'époque, il n'était absolument pas question de parler de pérémulation, quoi. Ça, c'était un terme, enfin au moins pour moi, je ne le connaissais pas. Donc ensuite, quand je suis sorti de Kerpap, j'ai rencontré par l'intermédiaire du sport, donc ça s'est fait quand même un petit moment après, un collègue à moi qui voulait créer une association ici à Rennes, donc cette association qui existe, hein, qui s'appelle Capandi, et il m'a expliqué en fait il a mis un mot sur la pérémulation, enfin ce dont j'avais été très demandeur, il m'a dit ben, c'est ça la pérémulation et c'est ça que je voudrais faire à l'intermédiaire de Capandi. Et donc moi j'ai adhéré tout de suite et on a participé à une journée nationale d'échange autour de la pérémulation. Et l'activité a commencé comme ça à Rennes, à travers un petit local qu'on louait ici à Rennes, dans lequel il y avait des petits modules pour s'exercer, pour les gens qui voulaient venir avec leur fauteuil, qui avaient besoin de mieux le maîtriser, par exemple. Donc, c'était Hubert, mon collègue, qui s'en occupait plus précisément, qui pouvait leur donner des conseils de maîtrise du fauteuil, bon, et au-delà, en fait, au-delà de ça, de la maîtrise du fauteuil d'une façon plus générale, dans la rue, et ainsi de suite. Et puis, en fait, les gens venaient, donc ça s'est su à travers un réseau de bouche à oreille, en fait, et donc il y avait une petite animation qui se créait régulièrement dans ces locaux. Donc tout le monde pouvait venir et discuter autour d'un café, et en fait on faisait de la pérémulation complètement informelle aussi à l'occasion. Bon, ça c'est une des fonctions de Capandi. Bon, donc l'association est sans dire en sommeil, enfin si elle est un peu en sommeil, moi je n'en suis plus que le seul représentant en fait. Bon, ça m'a permis de me bombarder président au passage. Donc elle a d'autres fonctions qui sont finalement pas si éloignées, enfin surtout une qui n'est pas si éloignée que ça, qui consiste aussi à essayer d'apporter de la connaissance à des gens qui sont des futurs professionnels de santé. Donc à cette occasion, moi j'interviens, j'anime des travaux dirigés avec les ergothérapeutes et les kinésithérapeutes de l'école de formation de Rennes, par exemple. Donc c'est apprendre à des gens finalement qui vont s'occuper de personnes handicapées ce qu'on attend d'eux. Quoi. Bon. Donc j'effectue toujours ces choses-là, la pérémulation via Capandi, la formation via Capandi, et puis aussi je suis accessoirement présent sur des forums de discussion aussi, parce qu'en fait la pérémulation peut se présenter de façon informelle sur Internet assez facilement. Donc j'interviens sur deux forums où on rencontre essentiellement des personnes paraplégiques, tétraplégiques, donc il y en a un en France et un aux États-Unis. Ensuite les avantages, selon moi les avantages de la pratique informelle, je dirais que le gros avantage c'est qu'elle est elle est complètement spontanée, en fait. Elle est vraiment complètement brute. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, le moindre cadre. Enfin, généralement, il n'y a pas de cadre. Il n'y a pas de bureau derrière quelqu'un derrière lequel il y aurait quelqu'un détenteur du savoir et de l'autre côté celui qui veut savoir. Il n'y a pas de hiérarchie. En fait, on discute vraiment d'égal à égal et de pair à pair. Et donc, on a une conversation qui est complètement libérée en quelque sorte. On peut aborder tous les sujets. Et généralement, d'ailleurs, on en aborde plusieurs. On ne va pas toujours dans le bon ordre, en fait. Donc, il n'y a pas de préparation du tout. Et il n'y a pas de personne ne sait au départ ce qui va se dire, quoi. Mais on se le dit, quoi. Je vais assez vite, en fait. Moi, je pense que je vais gagner par rapport aux 10 minutes. Ensuite.
Je pourrais presque vous dire prenez votre temps, mais je ne vais pas oser.
Non, mais il n'y a pas de raison d'en faire des montagnes. Alors, les limites, c'est les limites de l'avantage, quoi. C'est que justement, le fait qu'il n'y a pas de préparation initiale, ça veut dire qu'on ne va pas forcément avoir toutes les ficelles pour répondre aux questions, quoi. Donc là, je me place sur le côté pérémulateur, c'est-à-dire qu'en fait, on peut être entraîné à parler de sujets dont on n'a pas forcément toutes les connaissances. Et il faut savoir s'arrêter avant de dire des bêtises. En fait, ça me paraît très important. Bon, je pense que tout le monde ne fait pas. Enfin bon, après, c'est un peu aussi le problème de la pérémulation informelle. Donc on peut effectivement répondre de façon inadaptée. Donc ça, c'est un des problèmes. L'autre problème aussi, c'est que comme on ne connaît pas forcément très bien celui qui s'adresse à vous et que ça va relativement vite et qu'une fois de plus c'est spontané, on n'a pas forcément connaissance des facilités ou des difficultés des gens qui sont en face de vous. Donc on peut avoir les bonnes réponses, mais on ne va pas forcément... elles vont pas forcément être applicables par la personne à qui on va à qui on va répondre. Donc vous avez il peut y avoir une certaine divergence entre ce que vous pouvez dire et ce qui va se passer en réalité. Le troisième problème aussi, c'est que du fait qu'il n'y a pas justement de cadre, qu'il n'y a pas de contrat, un truc formalisé, c'est que en fait, on discute, on échange un certain nombre de solutions, et puis après, l'autre, il disparaît dans la nature, et il peut arriver assez souvent qu'on le retrouve plus. On ne sait pas ce que c'est devenu, et donc, du coup, c'est gênant, parce qu'on ne sait pas si les conseils qu'on a donnés étaient les bons, s'ils ont été appliqués, si on ne pouvait pas faire mieux que ce qu'on a fait, et ainsi de suite. Donc, c'est un peu ingrat, et puis on peut pas vraiment s'améliorer en fait dans ce genre de façon de faire. C'est ce qu'on retrouve assez souvent, ce que je retrouve sur Internet en fait assez souvent. C'est un peu le problème d'Internet, c'est qu'il va y avoir des gens qui vont venir, qui sont demandeurs d'informations. On va leur donner tout ce qu'on peut, ils vont disparaître, et puis on saura jamais finalement si ça a fonctionné, quoi. Donc ça, c'est un peu gênant. Je peux dire d'autres. J'ai à peu près fait le tour. Bon, sinon on peut parler effectivement de la qualité. Il est difficile de mesurer a priori pour le père émulé la qualité du père émulateur. Donc, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'est pas bon, est-ce que c'est celui à qui il faut que je fasse confiance, et ainsi de suite. C'est des questions qu'il faut se poser. Et c'est effectivement. Quand on est dans un cadre plus formel, quelqu'un peut avoir répondu déjà, enfin vous avoir classifié, et vous êtes normalement formé pour répondre, ce qui est pas forcément, ce qui est fatalement pas le cas quand c'est complètement informel. Voilà. Bien. Et alors en fait, dernière petite anecdote, par exemple. À titre indicatif, en fait, ce qui m'arrive de faire, bon là, c'est des exemples, j'en ai beaucoup, j'en ai pris un parce que j'ai trouvé ça assez rigolo. Ça s'appelle, comment on pourrait appeler ça, de la réparation de fauteuils à distance. C'est par télépathie, en fait. Donc, je me suis retrouvé sur un forum, donc sur le forum français, là, avec une jeune fille qui avait un problème avec son fauteuil parce que son fauteuil roulait pas droit. Ce qui peut être assez gênant. Et c'était d'autant plus gênant pour elle qu'elle avait très peu de temps pour l'emmener à réparer. Et puis, ben, d'un autre côté, elle n'avait pas non plus loué des relations très fortes avec le réparateur de fauteuil. Personne n'est réparateur de fauteuil dans la salle. Bon. Donc, voilà, elle n'était pas très contente des services du réparateur et elle voulait s'en affranchir. Mais bon, elle ne savait pas ce qu'il avait, son fauteuil. Donc, je lui ai posé différentes questions. De fil en aiguille, j'ai fini par trouver... donner un diagnostic sur son fauteuil. Donc il y avait simplement en fait des roulements d'une petite roue avant qui était usagée, et puis ça faisait que son fauteuil tournait tout le temps du même côté. Bon, un détail. Donc elle m'a dit qu'elle voulait le réparer elle-même, donc là ça devenait un petit peu plus compliqué. Donc j'ai été obligé de lui poser une ou deux autres questions pour savoir quel était son niveau de compétence en réparation de fauteuil, ou au moins en maniement d'outils. Donc moi je connaissais les outils qu'il fallait utiliser. Bon, elle savait servir d'un marteau, donc c'était déjà pas mal en fait. Et bah oui, on en a besoin, en fait c'est con, mais donc on a avancé comme ça petit à petit. Je lui ai dit à quel endroit acheter les pièces. Donc elle allait faire ses courses. Elle est revenue. Bon, elle m'a expliqué, voilà, j'ai démonté tel truc. Donc je lui ai expliqué comment démonter les roulements de ces roues, comment repositionner les autres. Bon, alors il y a un moment qui est un peu compliqué, effectivement, parce qu'il faut taper dessus assez fort. Donc c'est d'où l'intérêt d'avoir un marteau et de savoir s'en servir. Bon, il y a eu un autre moment où il y a eu une petite tension parce qu'il y a une des pièces qui est partie en roulé-boulé sous le canapé. Donc là, elle m'a dit je la laisse là, ou bah non, tu en as besoin quand même, il vaut mieux que tu ailles la chercher. Donc bon, elle est allée récupérer la pièce, bon, elle a remonté dans la roue, et elle a réinstallé tout, et en fait ça a fonctionné nickel. Donc bon, elle a réussi. La mission, c'était bien de gagner de l'autonomie en fait par rapport aux vendeurs de fauteuils, gagner un peu d'argent parce que ça lui a coûté quand même beaucoup moins cher. Et puis bah maintenant en fait elle sait changer les roues de son fauteuil, quoi. Enfin les roues, les roulements. Donc un gain majeur.
Bien. Donc un statut de salarié, hein, voilà.
Oui, voilà. Oui, alors moi je suis médiatrice de santé père sur le dispositif hein, chez soi d'abord à Lille. Alors je suis devenue médiatrice, j'ai eu l'information par le président du REV France, le monsieur qui est juste là, et voilà, qui connaissait le dispositif hein, chez soi et qui m'a dit, bah, y a un poste de médiatrice santé père et... pourquoi t'irais pas voir, en gros. Et enfin voilà, il m'a parlé du métier, et puis moi j'ai trouvé ça super intéressant de pouvoir un petit peu exploiter son passé en psychiatrie, son passé et son présent, pour aider mes pères. Voilà, donc je me suis posé la question de savoir si j'étais prête, si j'avais suffisamment de recul, et je me suis lancée. Voilà, donc après une procédure d'embauche, ma foi, assez traditionnelle, je suis devenue médiatrice et voilà, je suis sur le dispositif depuis un an. Voilà, on s'est dit. Alors, c'est vrai que ce que je vais dire à chaque fois, c'est vrai qu'il y a les spécificités d'un chez-soi d'abord, mais bon, voilà. Après, chacun... chaque médiateur santé-père intervient dans plein de milieux différents, donc... voilà. Alors pour moi, les avantages, je trouve que j'ai une relation qui est privilégiée avec les personnes qu'on accompagne, parce que je partage mes fragilités, je partage mes faiblesses. On est dans l'ordre de l'intime quand on se retrouve avec une personne qui est accompagnée par le programme. Et moi, je trouve ça intéressant parce que je suis reconnue en tant que professionnelle, mais pas que. Il y a cette notion de père qui fait que je suis dans un entre-deux professionnel, mais pas que. Et du coup, c'est une proximité, moi, qui me va bien, qui après, voilà, qui fluctue, hein, évidemment. Et du coup, d'avoir ce rôle-là, c'est intéressant parce que la confiance, elle peut s'installer un peu plus facilement parfois avec les personnes parce qu'on partage, on a des points communs et disons qu'on n'a pas la même... excusez-moi, hein, je suis un exercice un peu... Enfin, oui, voilà. Donc, j'ai une proximité qui est différente de mes collègues qui ne sont pas dans la pérennance. Et je le vois aussi parce que j'ai un passé de travailleur social. Et en tant que travailleur social, on avait ce qu'on appelle la bonne distance. Voilà, il faut avoir la bonne distance. Il ne faut pas y mettre trop d'affect. Ne surtout pas être touché par les situations. Surtout ne rien dire de soi, etc., etc. Enfin bref, je ne regrette absolument pas ce temps-là. Et je trouve ça vraiment génial de pouvoir partager de soi. C'est ce qui me motive, hein, dans ce métier. Voilà, ce qui est bien, c'est que on incarne en quelque sorte la possibilité d'aller bien malgré les troubles de santé mentale. On représente l'espoir, c'est. Et quand on dit que c'est possible, on a une crédibilité, voilà, parce qu'on est passé par là et si bon, bah voilà, si elle le dit, ouais, elle est peut-être plus crédible que ses collègues. Le fait d'être salarié, il y a aussi. Le fait d'être salarié, une reconnaissance du savoir que j'ai acquis par le biais de l'expérience, qui est différente de mes collègues qui, eux, ont appris leur profession en passant par des formations, etc. Et du coup, ce savoir expérientiel, il est... dans notre équipe, je suis partie d'une équipe pluridisciplinaire. Et c'est la rencontre, justement, entre ces deux savoirs, le savoir expérientiel et le savoir savant, on va dire ça comme ça, enfin bon, schématiquement. Et ces deux savoirs qui se complètent pour moi. On est plusieurs des professionnels autour de la table, et on se complète assez bien. J'ai une légitimité vis-à-vis de mes collègues, et aussi vis-à-vis d'autres professionnels et d'autres institutions. Voilà. Je suis reconnue en tant qu'expert d'expérience. Souvent, on nous appelle comme ça, c'est expert d'expérience. Et du coup, quand on est en réunion, quand on analyse des situations, mon expertise, elle est prise en compte au même titre que l'expertise de mon collègue psychologue ou de ma collègue psychiatre. C'est des points de vue différents, mais bon. Ce qui est intéressant aussi, c'est les rencontres avec différents partenaires. Quand on bosse à un chez soi d'abord, on est amené à aller dans les hôpitaux, CMP, etc., tribunaux, chez les curateurs, etc. On peut aller vraiment partout. Du coup, ça permet de rencontrer différents professionnels et donc, du coup, là, de parler petit à petit de qu'est-ce que c'est qu'un médiateur santé père et ce que je fais là, etc. Ça permet de faire connaître le métier et ça permet aussi de faire évoluer le regard que les professionnels ont sur la maladie. C'est-à-dire que voilà, ils vont avoir en face d'eux une personne malade, on va dire ça, mais voilà, qui est le point de leur représentation. Et voilà, donc je travaille beaucoup sur la déstigmatisation
donc forcément. Alors, les limites. Les limites. C'est la posture professionnelle. Voilà. On ne peut pas tout faire avec les personnes accompagnées, ni à n'importe quel moment. Voilà, il y a un cadre qui est bien, bien spécifique. Et enfin voilà, la marge de manœuvre, elle est assez limitée. Et voilà, par exemple, alors nous, c'est du basique, c'est du 9h-17h. Alors voilà, donc il n'y a pas de soirée. Voilà, je ne peux pas de soirée avec mes pères, pas de week-end, pas de temps dans le week-end. Enfin, c'est. Elles ne sont pas aussi variées que ce que j'aimerais au final. Et le temps de la rencontre, il est assez limité, donc ça génère énormément de frustration, aussi bien pour moi que pour les personnes chez lesquelles je vais en visite. Ensuite, il y a les exigences du fonctionnement. Donc, par exemple, chez soi d'abord, il y a, voilà, il y a des exigences. Il y a la gestion des urgences quotidiennes, par exemple. Enfin, il se passe tellement de choses que parfois, on met des priorités, on ne met pas les bonnes priorités. Enfin, c'est clair. Ouais.
Est-ce que vous voulez dire qu'on met les priorités de l'institution avant de celles de la personne? Est-ce que c'est ça que vous voulez dire?
C'est au niveau de l'organisation quotidienne. Ça va être, au lieu de travailler, de mettre en priorité une action bien-être, on va mettre en priorité de l'administratif. Mm-hmm. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. C'est pour moi, voilà, donc en fait, on est pris dans des objectifs qui sont définis par une équipe. Donc voilà, qui moi peuvent me paraître complètement décalés. Et de faire partie d'une équipe comme ça, c'est aussi frustrant parce que j'ai l'impression de ne pas exploiter mes spécificités en tant que père aidante. Voilà, mais c'est des choses qui travaillent et qui vont changer, de toute façon. Voilà, j'ai bientôt fini. Il y a aussi, oui, l'intervention. Alors nous, on intervient toujours en binôme. Et ça, c'est quelque chose qui m'embête un peu, parce que la relation peut être biaisée. Quand on est trois, c'est pas pareil que quand on est deux. Et j'aimerais aussi parfois être en tête-à-tête avec mon père, parce que je sais que on ne se dit pas la même chose, la parole est plus libre, voilà, on ne parle pas les mêmes choses. Donc, une question de contexte, voilà, qui sont inhérents de toute façon au fonctionnement d'un chez-soi d'abord, hein, qui, cela dit, est un terrain pour un médiateur santé-père qui est un terrain très intéressant. Voilà, je pense que j'ai fini. Je voulais. Juste une dernière chose, parce qu'on en parlait, c'est si ce matin on en parlait par rapport au fait d'être bénévole, salarié, etc. Alors moi juste une précision, depuis que je travaille en chez soi d'abord, je travaille aussi dans un GEM, enfin bref, je travaille beaucoup. Et depuis j'ai plus d'AH et j'ai plus d'APL, parce que, enfin, bordel quoi. Et pardon. Et voilà, donc en fait, on ne fait vraiment pas ce métier pour gagner de l'argent. Vraiment pas, on en perd, du coup. Voilà. Donc c'est, pour moi, je le fais parce qu'il y a du sens. Il y a vraiment du sens derrière tout ça. C'était la petite précision. Voilà.
Merci. Juste une précision, quand vous dites que vous travaillez en binôme, c'est un binôme père-accompagnant professionnel, hein, c'est ça dont il s'agit. Vous pouvez aussi être deux pères aidants. D'accord. C'est un binôme, c'est deux personnes, mais voilà. D'accord.
Merci Thomas, c'est à toi. Ouais.
Bon ben, merci de me donner l'occasion de partager ça. Donc moi je suis l'intrus de la table, tout le monde est père aidant à différents statuts, et puis moi j'étais psychiatre dans l'équipe Un chez soi d'abord. Ce que je voudrais essayer de développer avec vous, c'était en quoi le projet Un chez soi d'abord était un cadre institutionnel favorable à l'inclusion de pères aidants dans les équipes, de discuter ça, à travers plusieurs points, la lutte contre la stigmatisation. J'insisterai aussi sur concrètement qu'est-ce que ça change dans la pratique d'un psychiatre de travailler avec des pères aidants. Après, je ferai un petit point sur les limites et les perspectives. La commande du 1 chez soi d'abord. Donc, le 1 chez soi d'abord, rapidement, c'est une recherche qui a été mise en place dans 4 villes en France, Marseille, Toulouse, Lille et Paris, qui visait à tester une stratégie d'accompagnement de personnes avec des troubles psychiatriques sévères sans logement, et avec une stratégie d'accès direct au logement accompagnée par une équipe de suivi intensif. Ce qui est très intéressant, c'est que ça, c'est, du coup, ça a été une manière en 2011 de faire descendre en France des choses qui étaient très étrangères au monde de la psychiatrie, à savoir la question du rétablissement, de l'empowerment, d'adosser ces pratiques, cette théorie à des pratiques qu'on pourrait rassembler dans les outils d'accompagnement, dans des équipes dites de suivi intensif dans la communauté. J'en dirai quelques mots. Et l'autre, le dernier point, c'était de dire vous allez travailler avec des travailleurs pairs. Donc c'était ces trois points, empowerment, rétablissement, outils d'accompagnement très spécifiques et les travailleurs pairs. Moi, j'ai travaillé dans l'équipe de Marseille de 2011 à 2016 comme psychiatre. Clairement, on a eu du mal à entrer dans, à utiliser les outils du suivi intensif que sont les plans de rétablissement, les plans d'intervention et les plans de crise, qui ont été, qu'il faut savoir que ce sont tous des outils qui ont été mis en place par des pairs et qui ont ensuite été récupérés par des équipes de suivi intensif et qu'on essaye actuellement de diffuser dans d'autres pays que les États-Unis où c'est né, quoi. Et finalement, on s'est beaucoup appuyé sur la figure des travailleurs pairs pour soutenir cette nouvelle mission qu'on avait, donc de faire du suivi intensif dans la communauté. Et de ma place de psychiatre, l'utilité du travailleur pair, elle se situe où ? Je pense que, et c'est des choses qu'on en a beaucoup parlé aussi avec les différents travailleurs pairs qui ont fait partie de l'équipe, notamment c'est un énorme levier de lutte contre la stigmatisation. Il y a une petite vidéo sur YouTube qui a été faite par un médecin qui s'appelle Aurélie Tinland, T-I-N-A-L-A-N-D. Vous tapez stigmatisation Tinland sur YouTube, c'est une petite vidéo de 5 minutes qui est super intéressante. C'est comme un mock qui reprend, qui fait un petit point sur la stigmatisation, qui parle d'une stigmatisation sociale, d'une stigmatisation structurelle et d'une auto-stigmatisation. En fait, là, en gros, c'est rapidement... C'est les mêmes représentations qu'on peut avoir sur le handicap psychique ont des effets dans le corps social, dans le corps structurel, dans le corps individuel. Quelles sont les représentations qu'on a bêtement quand on est assez novice par rapport aux troubles psychiatriques ? Il y a la question de la dangerosité, la question du déni qui a été rappelée, la question de la dépendance affective, la question de l'incohérence, toutes les représentations qu'on peut avoir. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ça a des effets dans la société, ça a des effets dans les institutions et ça a des effets aussi chez les personnes concernées directement. Le travailleur pair, d'avoir un schizophrène dans l'équipe qui affirme le fait qu'il est schizophrène, qu'il est en voie de rétablissement. Mais en fait, toutes les petites blagues sur les schizophrènes dans une équipe, on ne peut plus les faire, quoi. C'est très intéressant. Travailler dans un projet qui dit en fait les personnes n'ont pas accès à leurs droits fondamentaux, et puis on est dans des pays occidentaux où les droits fondamentaux, il y en a pléthore, et sauf qu'on se rend compte que pour les faire respecter, c'est toujours obtenu de hautes luttes, et donc le droit au logement, le droit à la formation, le droit au travail, le droit à un soin qu'on choisit. Ce qui est intéressant, c'est que d'avoir un travailleur pair dans l'équipe, finalement, la stigmatisation structurelle de dire « Oh, en fait, on travaille à l'hôpital, mais l'accès au logement, il verra ça avec l'assistance sociale quand il aura bien pris ses médicaments, tout ça », en fait, on a tout mis ça en l'air et c'était une grande force. La stigmatisation sociale est aussi à l'œuvre quand on est un salarié d'une équipe, quoi. Toutes les représentations qu'on a ont un effet. Et après, ce qui est super intéressant, c'est que 1 chez soi d'abord, donc il s'agit toujours d'accompagner des personnes en situation de grande précarité. Et là, les effets de l'auto-stigmatisation sont juste démentiels, quoi. Et au moins, ce qui est très intéressant, c'est que de travailler avec un travailleur pair, on sait qu'on va travailler ça de manière intense. Et c'est peut-être là que moi, de ma place de psychiatre, je me suis le plus retrouvé en cohérence avec mes collègues travailleurs pair. Notamment dans la technique juste d'entretien. Quand on est psychiatre, quand on est interne en psychiatrie, pendant nos études, on ne nous apprend rien de tout ce qui est le rétablissement. Enfin, ça, j'espère que ça va bouger, hein. On est dans une phase où les choses bougent. Mais moi, du temps où j'ai fait mes études, il n'y a pas grand-chose de ce côté-là, et notamment sur les techniques d'entretien. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui viennent du milieu hospitalier, mais moi, ce que j'ai beaucoup vu faire, c'est on prépare l'entretien en équipe, donc le psychiatre, l'infirmier, quand il y a encore des aides-soignants, les aides-soignants, on met un ordre du jour, on réfléchit, ça prend 20 minutes, on fait venir le patient. Généralement, le plus gradé, le médecin mène l'entretien. Alors, des fois, on fait le truc, c'est l'interne qui le fait pour qu'il apprenne. Et voilà, on discute, on essaie de tenir cet ordre du jour. On est toujours en lutte contre l'ordre du jour du patient qui demande à sortir le week-end, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est le risperdal qu'il doit prendre. Donc on mène cet entretien. Et puis, une fois que l'entretien est fini, le patient sort. Là, on fait un débriefing, un petit conciliabule entre nous. Oui, il veut sortir, mais bon, son risperdal. Bon, écoute, on va baisser un peu le risperdal. Donc, on fait un débriefing. Et ensuite, celui qui va être en charge de maintenir les consignes, ça va être l'infirmier, quoi. Bah, quand on travaille avec un travailleur pair et qu'on travaille dans une équipe orientée vers l'établissement, dans le logement, clairement, tout ça est remis complètement à plat. Et notamment, dans mon expérience de médecin en capacité d'aller voir les gens au domicile avec un binôme père aidant, ce qui est très intéressant, c'est qu'on se rend compte, c'est qu'il y a une commande, en fait. Et que, on reste un peu psy, donc on réfléchit un peu les commandes, quoi. Et notamment, souvent, les commandes sont des commandes de mettre en suspension, en fait, réfléchir à la question de l'autostigmatisation des personnes. C'est quand même magnifique, quoi. Il y a des gens qui ont fait de la psychiatrie pendant des années. Comme médicament, ils avaient juste la possibilité de plonger les gens dans l'eau froide, les mettre dans l'eau chaude, les isoler, les menacer, puis ensuite leur donner des cadeaux. Nous, on a quand même la chance de vivre dans une période où il y a des médicaments qui, quand ils sont bien utilisés, peuvent rendre quand même un service qui n'est pas négligeable, quoi. Si on rajoute à ça toutes les techniques de communication, notamment autour de l'open dialogue, du dialogue ouvert, de la communication non violente qui se développe depuis ces 10 dernières années, on se rend compte qu'on est en fait super équipé pour faire du bon boulot. Et le problème, c'est ces fameux moments d'autostigmatisation, mais qui se comprennent très bien. Les personnes qu'on accompagne sur un chez-soi d'abord, c'est des gens qui sont sans logement, en moyenne d'âge, ils avaient autour de 30 ans, un quart d'entre eux avaient connu la prison dans les 2 ans, puisqu'on a comme données un peu sociodémographiques, une énorme majorité était passée par les institutions telles que l'ASE, les IME, et les CHRS, les UHU. Donc c'est des personnes qui ont des parcours où ils connaissent très bien les institutions et puis ils sont bien cognés aux institutions. Et à certains moments, ils ont compris aussi que pour ne pas se foutre en l'air, il fallait aussi qu'ils acceptent la position dans laquelle ils sont. C'est qu'à un moment, c'est bien aussi une stratégie de survie que de faire mauvaise fortune, bon cœur. Et ce qu'on a pu remarquer dans le travail avec les travailleurs pairs, c'est que en fait, on n'était pas du tout équipés, nous, en tant qu'équipe, aller faire des soins orientés vers l'établissement à domicile. Par contre, le minimum qu'on avait, c'est ça vient de collectifs de pères aidants, outre-Atlantique. Les Québécois ne sont pas trop loin, ils ont traduit tout ça, ils ont mis ça en œuvre. En 2011, Internet, ça commençait déjà à bien marcher, quoi. Et donc, en fait, on s'est nourri de tout ça, quoi. On s'est nourri de tout ça, notamment avec les travailleurs pairs. Du coup, quand on va voir une personne avec un travailleur pair, ce qui est super intéressant, c'est qu'on se retrouve face à des personnes qui, en gros, sont repérées par l'équipe, par leurs proches, comme allant plutôt mal, et avec l'espoir que il va se passer quelque chose avec ce couple-là. Mais effectivement, il se passe plus de choses, à mon avis, dans ce temps, dans cette rencontre, à partir du moment où le travailleur pair et en capacité, clairement, de parler de son parcours. Moi, j'ai vraiment vécu ça avec quelqu'un que je connaissais du temps où j'étais interne. Je la retrouve 10 ans plus tard avec mon collègue Christophe. On voit cette dame-là. Et là, ça bascule, mais vraiment sur un truc de juste... Avec Christophe, on s'était mis d'accord en disant, mais on essayait de monter un groupe d'entendeurs de voix. On savait qu'elle était entendeuse de voix. On dit, allez, on l'invite au groupe d'entendeurs de voix. Allez, on y va, on l'invite. Et on commence à lui dire, bon, allez, tu sais, là, ce que tu viens de faire, là, ça ressemble quand même à de l'entendre de voix, quoi. Et Christophe qui dit, en fait, c'est moi, j'entends des voix, et on fait un groupe, là, viens. Alors, elle n'est pas venue tout de suite, mais en tout cas, vraiment, juste d'avoir cet outil-là, et qui n'est pas... c'est pas fou, hein. Et en fait, il y a eu juste un changement radical, quoi. elle s'est intéressée à Christophe, quoi. Comment ça, schizophrène, tu peux pas être schizophrène. Si, si, je t'assure, moi c'est Abilify, Abilify jusqu'à la mort. Ah bon, Abilify, oh non. Oh bah, si, enfin, j'ai fait Risperdal, c'était nul. Abilify, ouais, Abilify, quoi. Mais bon, faut faire gaffe, le cœur, à ce qu'il paraît. Ah ouais, ah bon. Voilà, et en fait, on passe d'entretien où en gros on fait des plans entre collègues face au gars qui veut partir le week-end, que nous on veut Risperdal. Puis là on se retrouve dans. Enfin, en fait, on fait plus du tout le même métier. Alors, oui, clairement, on fait plus le même métier. Mais après, ce que Christian a peut-être pu étudier en tant que sociologue qui a suivi de près le 1 chez soi d'abord, clairement, les gens qui sont allés travailler au 1 chez soi d'abord, c'est des gens qui ne voulaient plus faire le même métier, très clairement. Et qui commencent à développer, en tout cas, qui ont été assez pionniers dans tous ces trucs-là, mais en étant appuyés par plein d'autres choses qui existaient un peu ailleurs. Donc, je vais juste aborder les limites de tout ça. C'est que, clairement, pour trouver un bon travailleur pair, bah, nous, ça nous a pris 3 ans. Normalement, c'est fini. Ça nous a pris très longtemps. Clairement, il faut soutenir les collectifs de travailleurs pairs pour des bonnes pratiques, quoi. Enfin, notamment des bonnes pratiques du côté des équipes, quoi. Je pense que si les travailleurs pairs sont en difficulté dans des équipes pourtant orientées vers l'établissement, c'est que les outils du rétablissement, comme les plans de crise, les plans de rétablissement, ne sont pas vraiment utilisés par les équipes. C'est que bah, il peut y avoir des erreurs de casting, donc les ressources humaines, comment ça se gère. Enfin, je pense que c'est plein de chantiers. Je pense que la proposition du Québec et de Montréal est super intéressante. Il y aurait quelque chose à réfléchir peut-être du côté d'un statut intermittent, sauf que c'est pas vraiment un statut, hein, même les intermittents du spectacle, ils sont pas très fiers de leur statut. Enfin, peut-être la prochaine fois, il faudrait qu'il y ait Benoît Hamon pour qu'on travaille plus la question du revenu universel et qu'enfin on puisse se dégager de tout ça et puis pour vraiment être aidants les uns les autres. Enfin, en tout cas, c'est clairement, ça ouvre plein de perspectives que je voudrais surtout pas refermer. Et voilà, j'en ai fini.
Merci.